Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute. Et je vous invite à prendre le livre le plus traduit au monde. À prendre vos Bibles et à les ouvrir dans 2 Corinthiens 5. Nous lirons un verset dans ce livre et ensuite nous lirons un passage dans Philippiens. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous tournons quelques pages pour aller dans le livre de Philippiens. L'épître aux Philippiens, chapitre 3. Donc Philippiens 3, 3 à 11. Car les vrais circoncis, c'est nous. C'est l'apôtre Paul qui parle. Nous rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui nous mettons pas notre confiance dans la chair. Pourtant moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison moi. Circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu préservée jusqu'à nos jours. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l'encre sympathique ou l'encre invisible. En fait, c'est un moyen d'écrire des messages qu'on ne peut pas lire sans un révélateur. Et le révélateur peut être une source de chaleur, une source de lumière ou un procédé chimique. Et là, tout à coup, d'une feuille blanche, on voit ce qui est écrit dessus. Eh bien, le Saint-Esprit est notre révélateur pour la Bible. C'est lui qui nous permet de voir avec notre cœur ce qui est écrit dans cette parole et de le saisir de manière à ce que nous puissions le comprendre. Et nous prions que cet Esprit nous permette de le voir ce matin, qu'on ne soit pas devant une feuille blanche en se demandant quel est le message qu'il nous révèle dans nos cœurs, ce qu'il veut nous dire dans sa parole. En ce dernier dimanche du mois, nous allons commencer une série de prédications que nous retrouverons chaque dernier dimanche du mois. Le titre de cette série est « L'Évangile change tout ». Rien que ça. L'Évangile change tout. Et les thèmes qui seront abordés dans ces différentes prédications donc seront inspirés du livre « Ça change tout, l'Évangile qui transforme ta jeunesse » de Jack L. Crow, que les jeunes de l'Église ont reçu d'ailleurs. L'Évangile touche tous les domaines de notre vie, tous les domaines de notre vie. Que ce soit notre identité, notre façon d'aborder la vie, l'éducation, le travail, la gestion de notre temps, les plaisirs, les priorités, l'espérance, notre joie, tous les domaines sont touchés par l'Évangile. Alors dans cette série, nous ne pourrons pas aborder tous les domaines. C'est beaucoup trop vaste. Mais nous allons en aborder quelques-uns. Nous aborderons que l'Évangile change notre histoire. Change notre histoire. L'Évangile change notre manière de voir l'Église. Elle change notre manière de faire face au péché. L'Évangile change notre discipline spirituelle, ou en fait nous permet de les vivre. L'Évangile change et affecte notre croissance, notre gestion du temps et nos relations. Voilà, ça c'est un peu les sujets qu'on va voir ensemble dans ces prochain dernier dimanche. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter particulièrement sur le changement d'identité produit par l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est le titre de cette prédication, « L'évangile change ton identité ». L'évangile change ton identité. Et nous commencerons par parler du changement radical de l'évangile pour ensuite nous intéresser à 6 caractéristiques du changement d'identité par l'évangile que nous trouvons dans les Philippiens. Commençons donc par cette notion du changement radical. En fait, chaque être humain, sans aucune exception, sauf Jésus-Christ, étant donné qu'il est né après l'entrée du péché dans le monde, en est affecté. Chaque être humain, étant donné qu'il est né après l'entrée du péché dans le monde, en est affecté. Et les illustrations que la Bible utilise pour nous montrer la situation dans laquelle nous sommes en tant que pécheurs, est vraiment explicite. La Bible parle de la mort. Nous sommes morts. Nous sommes aveugles. Nous sommes sous la colère de Dieu qui augmente tel un trésor à chaque fois que nous faisons quelque chose contre lui. La Bible dit encore que nous sommes pris de folie et ne comprenons pas Dieu, que nous sommes incapables de nous soumettre à la loi de Dieu. Vous allez me dire, ouais, mais attends. Moi, je connais des personnes qui ne vivent pas l'évangile, ou c'est peut-être même mon cas, qu'on pourrait me dire, et je ne suis pas mort, et je ne suis pas aveugle, je ne suis pas fou, et je ne suis pas incapable de faire ce que Dieu demande, puisque j'ai tué personne. Mais nous parlons ici de l'aspect spirituel de notre personne. Et il est évident que celui qui est mort spirituellement ne se rend pas compte de ces choses jusqu'à ce que l'Esprit le convainc de péché, de justice et de jugement. Et l'Évangile, c'est justement la bonne nouvelle de celui qui est venu nous donner une vie libérée qui ne se terminera jamais. Il donne la vue, il prend sur lui la colère de Dieu, nous réconciliant avec Dieu. Et il renouvelle notre intelligence afin que nous comprenions ce que Dieu veut nous dire. Et il nous donne la capacité de suivre sa loi qui est toujours bonne. La loi de Dieu est toujours bonne. Je vais vous le refaire, je le fais presque chaque fois, mais c'est bien pédagogiquement. Imaginez que tout le monde vit tous les 10 commandements. Plus de vol, plus de mensonges, plus de familles déchirées. La loi de Dieu est toujours bonne, toujours. Et l'évangile, c'est le rétablissement des conséquences excellentes de ce que Dieu demande. C'est l'évangile. Et l'évangile va encore bien plus profondément, car il change notre identité. Il nous permet de comprendre notre valeur. Il nous donne un sens à la vie, une assurance à toute épreuve. C'est vrai que dans nos vies, bien des événements nous façonnent. Que ce soit des examens réussis ou ratés, ça change quelque chose dans notre vie. Ça peut changer des mois qui sont devant nous. Un déménagement, un changement de travail, le mariage, le décès d'un proche, ou encore la naissance d'un frère ou d'une sœur. Ça change, on ne va plus vivre la même chose qu'avant. Mais tous ces événements ne peuvent pas fondamentalement changer notre identité. Même si on a l'impression que tout change parfois. Mais notre identité n'est pas changée par ces événements. Et c'est là que le verset de 2 Corinthiens 5, 17, qu'on a lu tout à l'heure, est tout simplement phénoménal. Quand on prend juste un petit instant pour comprendre ce que cela signifie. Vous vous souvenez, 2 Corinthiens 5, 17, ça vous pouvez l'apprendre par cœur, c'est pas très long. Si quelqu'un est en Christ, ça vous pouvez méditer chaque mot, c'est très intéressant. On va pas le faire ce matin, ça prendrait trop de temps, mais... Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un changement. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. J'aime bien un petit passage du commentaire de Matthew Henry qui dit ceci. L'homme renouvelé agit en vertu de nouveaux principes, de nouvelles règles, avec de nouvelles finalités et dans une nouvelle compagnie. Le croyant est de nouveau créé. Son cœur n'est pas simplement rempli de droiture, mais un cœur nouveau lui est donné. Le changement est radical. Radical. L'évangile change notre identité radicalement. Si tu reçois l'évangile de Jésus-Christ, ce qui signifie se repentir de ses péchés en s'en détournant, et croire en Christ, ton roi, ce qui se traduit ici d'être être en Christ, hein, si quelqu'un est en Christ, eh bien tu étais mort spirituellement et tu es maintenant vivant. Tu étais mort spirituellement, tu es maintenant vivant. Tu étais aveugle et maintenant tu vois, tu es clairvoyant. Hein. Tu étais aveugle et maintenant tu es clairvoyant. Tu étais séparé de Dieu et maintenant tu es réconcilié avec le Créateur. Séparé de Dieu, réconcilié avec le Créateur. Tu étais sous la juste colère de Dieu. Tu étais condamné. Et maintenant, tu es justifié par Christ. Tu es gracié. Tu étais condamné. Tu es gracié. Tu étais insensible, ne comprenant pas la parole de Dieu. Et maintenant, tu es malléable et tu progresses dans la connaissance de la parole. Hein, tu étais insensible. Et tu es malléable. Tu étais incapable d'obéir à la loi de Dieu. Et maintenant, tu aimes te soumettre aux ordonnances de Dieu. Tu étais incapable d'obéir à la loi de Dieu. Et maintenant, tu aimes te soumettre aux ordonnances de Dieu. Tu es né. Tu es né. Tu ne dénaîtras jamais. Tu es né. Tu fais partie de la famille de Dieu. Tu grandis dans la foi, tu portes des fruits reconnaissables par tous. Tu es né, tu ne vas jamais dénaître. Tu fais partie de la famille de Dieu, tu grandis dans la foi et tu portes des fruits reconnaissables par tous. Ton identité a changé. C'est radical. Elle a changé. Et l'Église qui est l'ambassade du royaume, hein, vous savez, l'Église c'est une ambassade. Il y a un royaume puis on est l'ambassade ici, hein. L'ambassade du royaume de ta nouvelle identité, c'est l'Église. Et l'Église va te donner le passeport qui te confirme que tu as cette identité que tu manifestes par le baptême. Petite parenthèse, l'Église ne te donne pas cette identité. Elle ne fait que confirmer ce que le roi a donné et qui est publiquement attesté en lien avec un changement réel. Ça, c'est important à comprendre. C'est pas l'Église qui donne une identité, c'est le roi du royaume qui la donne. Mais l'Église va l'attester, hein, en donnant, j'ai pris l'exemple du passeport, hein, cette notion, on peut dire, bah, celui qui est membre d'une Église, il a quelque part ce passeport, c'est attesté, il est chrétien. Mais c'est pas l'Église qui donne l'identité, c'est le roi. L'Évangile change notre identité. Tu ne parles plus comme avant, où le langage de ton identité passée te faisait blasphémer et parler grossièrement. Tu ne parles plus comme avant, tu n'as plus cette identité. Tu ne t'habilles plus comme avant, où la provocation et la mise en avant de ton corps faisaient partie de ton ancienne identité, qui prêtait plus d'attention à l'aspect extérieur qu'à la disposition du cœur. Tu ne regardes plus les mêmes choses qui nourrissaient ta folie de souillure avec délectation, non. Tout ce qui te pousse au péché te répugne. Et même si parfois tu es encore séduit, ce n'est pas pour longtemps. Parce que ta nouvelle identité ne te permet plus d'être à l'aise avec la souillure. Jésus transforme totalement. Jésus transforme totalement. Une joie profonde, une paix insondable, la confiance en l'amour indestructible de Dieu inonde le cœur. Et nous pourrons toujours y puiser dans ces ressources qui viennent de Jésus-Christ.
Ça vous a à peine médité un petit moment là, hein?
Il nous transforme totalement.
Oui, nous cheminons petit à petit,
mais il nous transforme totalement. Malheureusement, des personnes proclament être des disciples de Jésus-Christ, mais n'ont pas une vie différente de ceux qui n'ont pas changé d'identité. Ils disent être des lions, alors qu'ils continuent à manger comme des chevaux, à hennir comme des chevaux, à se comporter comme des chevaux. Mais ils disent à tous qu'ils sont des lions. Ça fait bien rire les autres chevaux. Et ça perturbe les jeunes lions. Non, l'Évangile, c'est pas une mascarade, c'est pas un théâtre, c'est pas une farce. L'Évangile produit des changements radicaux. Ou alors, il ne s'agit pas de l'Évangile de Jésus-Christ. Quand Dieu sauve, il change tout. Et Saul de Tarse en est un exemple éloquent. Il était formé dans les meilleures écoles universitaires de son époque. Il détestait les chrétiens. Il se moquait de Jésus-Christ. Il poursuivait tous ceux qui osaient parler de celui qu'il appelait l'imposteur. Et l'évangile a agi dans sa vie. Jésus lui a dit, « Tu m'appartiens. » Et comme si on avait pressé sur un bouton, sur un interrupteur, Paul est devenu un fervent défenseur de la foi chrétienne. L'évangile change tout. Vous allez me dire, ouais bon, là c'était impressionnant. Moi j'ai pas vécu ça. Écoutez, même si vous êtes venu à la foi en étant petit, ça a quand même tout changé. Totalement. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure fait partie de ces changements. Pour Paul, l'évangile a changé son identité. Il n'était plus jamais au service du même royaume. Il a reçu son passeport à l'ambassade du royaume de Christ à Damas, qu'il est allé détruire d'ailleurs.
Enfin, c'était son désir.
Et Paul, par son témoignage, nous permet de ressortir 6 caractéristiques de celui à qui l'évangile a changé l'identité. C'est notre deuxième point. Là, je vous invite à avoir votre texte de Philippiens 3 sous les yeux. Et avant de relire ce texte, nous allons le relire, c'est versets 3 à 11, j'aimerais vous donner déjà ces 6 caractéristiques, que vous puissiez les reconnaître dans le texte, et ensuite nous prendrons quelques instants pour les observer. Donc voici ces 6 caractéristiques. La première, c'est que tu tiens à Christ plus que tout. Tu tiens à Christ plus que tout, c'est ton trésor, ton trésor de grand prix. Tu serais capable de tout vendre pour cette perle, vous connaissez la parabole. Donc tu tiens à Christ plus que tout. Deuxième caractéristique, tu considères le reste comme ayant peu de valeur. Tu considères le reste comme ayant peu de valeur. Troisième caractéristique, tu mets ta foi uniquement dans le Christ. C'est uniquement lui qui est ton assurance de ton salut. C'est uniquement par lui que tu sais que tu es sauvé. Donc tu mets ta foi uniquement dans le Christ. Quatrième élément, tu connais le Christ. Tu le connais. Tu connais. Tu as une relation intime avec lui. Cinquième élément, tu souffres pour le Christ. Et sixième élément, tu deviens comme le Christ. Ça, c'est 6 caractéristiques que l'apôtre Paul nous décrit ici dans ce texte de Philippiens que je vais relire maintenant avec vous, particulièrement dans les versets 8 à 11. Mais je relis depuis le verset 3 pour avoir ce contexte. Donc Philippiens 3, verset 3. « Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres quoi pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteur de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. » Reprenons maintenant ces 6 caractéristiques de changement d'identité par l'Évangile. C'est vrai qu'on peut un peu regrouper les 2 premières, hein. Tu tiens à Christ plus que tout, c'est ton trésor, et tu considères le reste comme ayant peu de valeur. En fait, Jésus-Christ est ta priorité absolue. Jésus-Christ est ta priorité absolue, et tu sais qu'il en vaut la peine. C'est ça être chrétien. C'est Jésus-Christ, c'est la priorité absolue, et tu sais que cela en vaut la peine. Et en fait, tu t'exerces dans chaque situation à mettre Jésus en premier. Car le perdre Jésus-Christ, signifierait vraiment tout perdre. Alors si tu devais choisir entre Jésus et ton smartphone, que choisirais-tu? Oui, la réponse facile du dimanche au culte, hein.
Moi, je parle de votre théologie pratique, de ce que vous vivez vraiment. Mais je trouve pas la question forcément simple, disons. Si tu devais choisir entre Jésus-Christ et ton smartphone, que choisirais-tu? J'aimerais juste nous aider à nous souvenir que Jésus-Christ est le seul qui peut te donner une connexion avec Dieu sans problème de réseau. Et c'est aussi le seul qui peut te donner une connexion sans parasite avec les autres. Jésus est bien plus précieux qu'un smartphone. Si tu devais choisir entre une bonne place de travail et Jésus-Christ, aussi un ou deux souvenirs, parce qu'on doit s'exercer à ces choses, mes amis. On doit s'exercer. Eh bien, on va se souvenir que Jésus nous partage sa gloire. Il nous donne une valeur inestimable en ayant versé son sang pour nous et il a promis de ne jamais nous laisser tomber. Jésus-Christ est bien plus précieux qu'une bonne place de travail. En fait, la nouvelle identité en Christ nous pousse à tenir à Christ plus qu'à n'importe quoi d'autre. Et évidemment, dans toutes ces autres choses, nous les vivrons dans l'excellence pour plaire à Christ. Mais vous comprenez bien, la nouvelle identité en Christ nous pousse à tenir à Christ plus qu'à n'importe quoi d'autre. C'est ce qui explique pourquoi des personnes ont été capables de mourir simplement parce qu'ils ont refusé de dire « Je ne crois pas que Jésus est Dieu ». Que ça ! Ils y tenaient tellement qu'ils ont été prêts à donner leur vie. Et je vous assure que si vous êtes en Christ, que vous l'aimez, Dieu vous donnera aussi cette force si vous êtes dans cette situation-là. Mais c'est vrai qu'encore malheureusement trop souvent, nous nous accrochons à du matériel, à la réputation, ou même à notre santé ou à la religiosité. Et notre vie ne dit pas vraiment ce que l'on dit souvent. Oui, Jésus, c'est le plus important pour moi. Mais ma vie pratique crie encore trop souvent que le reste a plus de valeur que Jésus. Et là, je peux que dire, mais que Seigneur, viens à notre secours. Et exerçons-nous, chers frères et sœurs, à le mettre en premier. Donc, c'est les deux premières caractéristiques. Tu tiens à Christ plus que tout. Christ est ton trésor. Et tu considères le reste comme ayant peu de valeur. Troisième caractéristique, tu mets ta foi uniquement dans le Christ. Il existe un piège terrible. Un énorme piège placé sur notre route. Je vais vous donner son nom. Il s'appelle propre justice. C'est un piège très grand. Propre justice. La propre justice nous enlève la capacité à demander pardon. La propre justice nous enlève la capacité à demander pardon puisque nous avons raison. La propre justice nous enlève la joie du progrès puisque nous savons déjà tout. La propre justice perturbe même notre compréhension du salut puisqu'elle nous enlève le besoin d'un sauveur. Puisque nous sommes déjà parfaits. Et c'est terrible, la propre justice. La semaine passée, un jeune m'a appelé en me disant qu'il était confronté à une question à laquelle il avait du mal à répondre. Voici cette question. Si quelqu'un a fait du bien toute sa vie, Dieu ne va quand même pas l'envoyer en enfer. Eh bien, celui qui posait cette question est tombé dans le terrible piège de la propre justice. Ce piège dans lequel les pharisiens sont très souvent tombés. Ces hommes étaient des exemples de vertu de leur temps. Ce sont ceux qui font le bien toute leur vie. Ouais, je vous vois venir. Vous avez une vue différente des pharisiens maintenant. Oui, ça c'est parce que Jésus, dans sa parole, nous a montré qu'est-ce qui était dans leur cœur. Mais les gens du temps de Jésus ne voyaient pas dans le cœur des pharisiens. Et c'étaient les meilleurs. C'étaient ceux qui faisaient tout le bien qu'on pouvait faire. On ne pouvait quand même pas être envoyé en enfer. Il est écrit dans Galates 2.16, et c'est une réponse à cette propre justice. « Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. Nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Personne. C'est pour ça que Christ est notre bien le plus précieux. C'est pas mes accomplissements les biens les plus précieux. C'est Christ. Et celui dont l'identité est changée par l'évangile sait très bien que son cœur le condamne et qu'il ne peut mettre que sa confiance en Christ pour être sauvé. Voilà cette troisième caractéristique de cette identité changée par l'évangile, c'est que tu mets ta foi uniquement dans le Christ. Quatrième caractéristique, tu connais le Christ. Hein, au verset 8 du chapitre 3 de Philippiens, Paul parle de l'excellence de la connaissance de Christ. Cette connaissance, c'est bien plus que de savoir des choses sur Dieu. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Facebook. Or, sur Facebook, des milliers de personnes peuvent vous suivre et suivre ce que vous y placez. Et peut-être qu'une grande majorité même de ces personnes, vous ne les avez jamais rencontrées. Comment pourraient-ils dire alors qu'ils vous connaissent? Ils ont lu des choses que vous avez mises sur votre média social. Mais est-ce que vous pourriez dire qu'ils vous connaissent? Vous les avez jamais vus. Vous avez mis des petits pokes, j'aime pas, d'accord. Est-ce qu'ils vous connaissent? Eh bien, c'est à cela que ressemblent ceux qui suivent Jésus sans le connaître vraiment. Ils sont ses amis sur Facebook, mais ne l'ont jamais rencontré. Ces personnes peuvent expliquer des tas de choses sur Jésus. Même peut-être la longueur des clous utilisés pour le mettre en croix. Qui sait? Ils sont peut-être capables de faire des prières impressionnantes et touchantes. Mais il n'y a pas de relation intime avec Dieu. Et en dehors de l'imitation, il n'y a pas de vie dans cette relation fondamentale avec Jésus-Christ. Celui dont l'identité est changée par l'évangile connaît le Christ et sa parole dans une relation intime et bienfaisante. Il connaît Christ et sa parole dans une relation intime et bienfaisante. Cinquième caractéristique de celui dont l'identité est changée par l'évangile, c'est que tu souffres pour le Christ. Paul parle de cette communion à la souffrance de Christ. Il parlera de la souffrance aux Thessaloniciens. Pierre soulignera aussi cette réalité à la suite du Maître. Et puisque Jésus l'a dit lui-même dans Jean 15, que la haine du monde et la persécution fait partie de la vie chrétienne normale. Jack Elcrow, dans son livre, écrit une phrase que je trouve intéressante. Elle dit « Dire aux chrétiens qu'ils n'auront pas à souffrir est un horrible mensonge. » Dire aux chrétiens qu'ils n'auront pas à souffrir est un horrible mensonge. Et elle a raison. Mais celui qui a son identité changée peut dire que ses souffrances présentes sont peu de choses par rapport à la gloire à venir. Celui dont l'identité a été changée par l'évangile peut dire « Oui, il y a des souffrances, aussi même en lien avec ma foi, mais je ne les vivrai jamais seul. Je serai toujours dans une situation où mon maître et mon roi, qui lui a souffert aussi, sera à mes côtés. » Et dernière caractéristique de quelqu'un dont l'identité a été changée par l'évangile, nous parle de la conformité à Christ. Le sixième, c'est « Tu deviens comme le Christ ». Tu deviens comme le Christ. Jésus-Christ a toujours poursuivi la sainteté et pas le bien-être. Il a toujours poursuivi la sainteté et pas le bien-être. Il s'est toujours détourné du péché et pas de la souffrance. Il s'est toujours détourné du péché, pas de la souffrance. Il a pris du temps avec son Père dans la prière et n'a négligé aucune discipline spirituelle. Jésus-Christ est ressuscité. Il est dans la gloire. Vous croyez qu'il est dans la gloire, Jésus-Christ? Amen! Il est dans la gloire, maintenant, et il va revenir. Celui dont l'identité est changée par l'évangile va donc se nourrir de ce qui lui permettra de devenir toujours plus comme Jésus-Christ. Je vais vous donner quelques manières pratiques qui peuvent nous y aider. On peut écouter des prédications ancrées dans les vérités bibliques, dans ce qu'il dit de lui-même. Pour écouter de la musique qui nourrit votre âme. Pas la musique qui détruit votre âme, qui nourrit votre âme. Vous pouvez lire des livres qui poussent à vivre en conformité à Jésus-Christ. Ça peut être des explications de ce que Christ a fait, ou simplement un témoignage d'une vie qui représente l'œuvre de Dieu. Ou on peut parler avec des amis qui motivent à regarder à Jésus-Christ. Et tant d'autres choses, en fait. On cherchera des moyens pour grandir. On aimera être ensemble les uns avec les autres, ceux qui aiment le Seigneur, et parler de Jésus-Christ. Et nous désirerons devenir comme lui, pas Dieu comme lui, évidemment, mais comme lui en tant qu'homme parfait, bon, sensible. En puisant dans ses ressources desquelles nous bénéficions, nous pouvons le suivre dans son amour, dans son pardon, dans sa joie, dans sa paix, dans sa motivation, dans sa bienveillance, dans sa détermination. C'est tous des éléments où nous pouvons suivre notre Seigneur et notre Sauveur en puisant, en plus, dans ses ressources. En puisant dans ses ressources desquelles nous bénéficions, nous pouvons le suivre dans son amour, dans son pardon, dans sa joie, dans sa paix, dans sa motivation, dans sa bienveillance, dans sa détermination. En fait, celui qui a une identité changée par l'Évangile va devenir toujours plus comme Jésus-Christ. Nous arrivons à la conclusion, courte conclusion. L'Évangile change tout. Alors si vous ne me croyez pas, ben réfléchissez une fois. Notez tout ce que ça change. Ça, c'est un bon exercice. Et donnez-moi votre liste, ça me donnera des idées aussi peut-être. L'Évangile change tout. Et il change ton identité. Tu n'appartiens plus au même royaume. Tu n'appartiens plus à la même famille. L'Évangile te donne d'avoir une nouvelle identité qui se voit et qui te conduit à la félicité du royaume éternel de Dieu et de pouvoir bénéficier déjà maintenant de l'amour bienveillant de Dieu qu'il manifeste de diverses manières, comme aussi par l'amour des frères et sœurs. Bien imparfait, oh là là, mon amour est malheureusement encore bien imparfait, mais où nous grandissons les uns les autres en puisant dans cet amour de Dieu. Et je terminerai avec une citation du livre de Jackel Crow qui dit ceci. Si tu vis avec Jésus, tu ne peux pas vivre une vie inchangée. Si tu vis avec Jésus, tu ne peux pas vivre une vie inchangée. Et nous allons prier. Éternel, nous te remercions pour ta parole, pour le témoignage de tes serviteurs qui ont été transformés par toi et qui expliquent plusieurs éléments qui se sont réellement manifestés dans leur vie. Nous n'avons fait qu'effleurer ce sujet du changement que produit l'Évangile. Mais j'aimerais, Seigneur, te prier que nous puissions nous rappeler que tu changes notre identité et que cette identité est inébranlable. Que cette identité n'est pas changée lorsque nous recevons une mauvaise note à l'école. Que cette identité n'est pas changée lorsque nous passons une mauvaise journée. Que cette identité n'est pas changée lorsque nous avons l'impression de ne pas pouvoir faire face. Que cette identité n'est pas changée lorsque quelqu'un nous a trahis. Cette identité n'est pas changée lorsque nous sommes malades. Seigneur, j'aimerais te prier que nous puissions saisir et comprendre que cette identité que nous avons en toi, enfant de Dieu, héritier de la gloire, est solidement ancrée en toi. Sois loué et béni dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.